Parole d'assaut, une émission de Didier Blons, prise de son Gisèle Billon. Aujourd'hui, nous recevons l'association Sève, qui en fait veut dire savoir être et vivre ensemble, avec pour invité Paul-Éric Pano. Paul-Éric Pano, bonjour. Nous allons parler savoir être et vivre ensemble. Ça fait un peu philosophie tout ça.
Alors, savoir-être et vivre ensemble, il faut quand même que je vous dise, pour commencer, c'est une association qui a été créée il y a 4 ans par Frédéric Lenoir, un philosophe, sociologue, écrivain, avec Martine Roussel-Adam, qui est une personne qui s'intéresse beaucoup à l'enfance depuis nombreuses années, et qui s'est donné pour objectif de permettre la diffusion des ateliers à visée philosophique auprès des enfants.
Tiens donc, on peut faire de la philosophie avec des tout-petits.
Oui, on peut commencer même en grande section de maternelle. Et puis bien sûr, on peut continuer après, en primaire, au collège. Et ça veut dire qu'on peut faire de la philosophie sans attendre d'être en terminale et d'être en fin de ce second degré.
Avec des profs.
Voilà. Et ici, bien sûr, il ne s'agira pas de faire des ateliers où on va apprendre la philosophie. Il ne s'agit pas de cours de philosophie, mais il s'agit de philosopher.
C'est quoi la philosophie et c'est quoi philosopher ?
Alors, philosopher, c'est réfléchir ensemble sur les grandes questions de la vie. Les hommes philosophes depuis toujours...
Paul-Éric Pano.
Et se posent les mêmes questions depuis toujours. Mais c'est important aujourd'hui que les enfants puissent répondre et réfléchir aussi à ces questions. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que les enfants aient un avis personnel sur ces grandes questions, qu'ils confrontent cet avis avec ceux de leurs petits camarades, qu'ils s'écoutent, qu'ils partagent ensemble une réflexion.
C'est important de s'écouter.
Bien sûr, c'est même essentiel. Et c'est pour ça que ces ateliers ont cette particularité de s'organiser sous forme de débat. C'est-à-dire qu'on va proposer aux enfants, à partir d'un thème qui sera choisi, de réfléchir ensemble, de s'écouter, d'enrichir leurs pensées avec celles des autres, et puis de se dire qu'après tout, ah ben oui, je n'avais pas pensé à ça, mais ce que vient de dire mon petit camarade, ça m'intéresse bien. Ou bien aussi se rendre compte quelquefois qu'on peut être d'avis différents sur un même sujet, et que ce n'est pas pour ça que l'un a raison ou l'autre a tort.
Réfléchir sur les grandes questions de la vie, j'imagine qu'on ne les aborde pas de la même manière avec un enfant en grande section de maternelle, quelqu'un qui est en CM2 ou quelqu'un qui est en collège.
Mais bien sûr, c'est évident, on va s'adapter à l'âge des enfants. Et d'ailleurs, une des postures importantes que doit avoir l'animateur d'un atelier philo, c'est d'être à l'écoute des enfants. C'est d'être dans une attitude de bienveillance avec les enfants. Être bienveillant avec les enfants, c'est se mettre à leur niveau, les écouter, les respecter, et puis savoir se positionner par rapport à ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent.
À une époque où les réseaux sociaux ont décrit un peu tout et n'importe quoi, souvent sans réfléchir, on appuie sur Enter et puis il y a beaucoup d'insultes qui passent, ces discussions où on apprend à s'écouter, c'est le début du dialogue.
Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, encore plus peut-être qu'avant, l'intérêt de ces ateliers est évident. Les enfants sont confrontés dans la vie à des événements quelquefois dramatiques, quelquefois violents. Hein, c'est la télévision, mais c'est aussi maintenant Internet. Ce sont les réseaux sociaux, comme vous dites. Et les enfants de plus en plus jeunes ont accès à tous ces médias. Et donc, c'est vraiment important de leur permettre, et souvent ça se passe au niveau de l'école, de réfléchir eux-mêmes, avoir une réflexion personnelle sur tout ce qu'ils entendent, sur tout ce qu'ils peuvent voir à la télévision ou tout ce qu'on peut leur dire.
On va essayer plusieurs fois pendant cette émission de donner votre contact. Où est-ce qu'on peut vous contacter, numéro de téléphone ou une adresse?
Alors, je vais vous donner, il faut que je vous en donne plusieurs. Il y a d'abord le site de l'association. Alors, le site de l'association, c'est Sève.
Je rappelle, Sève, c'est savoir être et vivre ensemble.
Donc, le site de l'association, c'est asso.sève.org, asso.sève.org. Mais vous pouvez aussi nous contacter localement sur l'adresse mail de l'antenne normande de l'association. Alors, l'adresse est un peu longue, mais je vous la donne quand même. C'est antenne.normandie@asso.sève.org. Et puis, je vais vous donner un numéro de téléphone.
Que l'on répétera.
Le 06 74 91 04 09.
On répète le numéro.
06 74 91 04 09. Et c'est mon numéro, hein, donc...
Monsieur le maître d'école, vous souvenez-vous encore de moi, d'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage, d'un petit garçon qui a bien grandi et qui maintenant souvent se dit, c'était le bel âge. Monsieur le maître d'école, moi je me souviens encore de vous, joujou, genou, caillou, bijou, et toute la gamme, géographie, récitation, histoire de France et rédaction, oh quel programme. Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. Monsieur le maître d'école, je n'oublierai jamais le jour, c'était pendant le dernier cours, dernier bagage, quand j'ai senti poser sur moi votre main qui me disait tout bas, fais bon voyage. Monsieur le maître d'école, y a pas à dire, ces moments-là, on y repense bien des fois, on se les rappelle.
Et c'est une association locale ou nationale, Sève?
Alors, Sève, c'est une association nationale qui est implantée partout en France, mais qui a des antennes régionales. Donc moi, je suis le représentant de l'antenne normande de Sève. Et à l'intérieur de ces antennes, nous avons créé des groupes locaux. Et c'est ainsi que sur l'agglomération havraise, nous avons un groupe local qui réunit des adhérents, des animateurs, et aussi des stagiaires en cours de parcours.
On va parler des animateurs, mais je serais curieux de savoir qui vous contacte généralement. Est-ce que c'est vous qui démarchez, par exemple, les écoles, ou ce sont les écoles qui vous connaissent et vous contactent?
Alors, les deux sont possibles. Sur le site de l'association Sève, il y a un onglet qui permet à une école, à une collectivité, un centre de loisirs, un établissement périscolaire, de nous contacter directement pour demander un devis pour la mise en place d'ateliers ou pour demander un contact local pour pouvoir envisager la mise en place d'ateliers. Mais il y a aussi des animateurs qui, une fois qu'ils ont fait leur parcours avec l'association, d'eux-mêmes vont démarcher des écoles, des centres de loisirs, des établissements de périscolaires, afin de présenter et de proposer leurs services.
Vous êtes sur votre radio préférée avec Didier Blons.
Qui sont ces animateurs? Qu'est-ce qui les motive pour parler, enseigner, je ne sais pas comment dire, échanger, débattre, amener la philosophie notamment aux plus petits, parce que aux plus grands, on peut imaginer que c'est un peu plus simple, mais les petits.
Alors d'abord, je vous reprends sur le mot enseigner. Il n'y a sûrement pas d'enseignement de la philosophie dans les ateliers que nous mettons en place. Alors, qu'est-ce qui motive les gens ? Ben, je crois que c'est avant tout le projet d'association. Une association qui se donne comme sigle savoir-être et vivre ensemble. Et une association qui a un slogan qui est « Aidons les enfants et les adolescents à grandir en discernement et en humanité ». Moi, je trouve que c'est un beau projet. Et c'est comme ça que j'ai commencé chez Sève. J'ai lu un article sur cette association et quand j'ai vu quels étaient ses objectifs, je me suis dit « mais ça me parle et c'est quelque chose que je trouve passionnant ». Donc je pense que c'est avant tout un intérêt personnel. Après, les animateurs, ce sont des gens qui viennent de toutes parts, de tout milieu. Il y a des enseignants, mais pas que.
Des enseignants philosophie ou pas forcément de cette matière ?
Pas forcément. Moi, quand j'ai fait mon parcours pour devenir animateur, j'étais avec notamment une professeure de sport d'un collège. Donc, non, pas seulement. C'est pas nécessaire d'avoir une culture philosophique importante pour se lancer dans ce beau projet. Et ça, j'insiste pour le dire, parce qu'il faut vraiment que les personnes qui pourraient être intéressées sachent que non, la culture philosophique, on conseille bien sûr d'en avoir petit à petit, d'en acquérir un peu, d'aller peut-être de se souvenir de ces anciens cours de terminale, et puis de se replonger dans des textes que l'on a envie de relire ou de lire pour la première fois. Mais non, il n'est pas nécessaire d'être professeur de philosophie pour faire des ateliers philo. Il faut être avant tout motivé et avoir envie de partager cette passion et de la vivre avec les enfants.
On aborde quelles questions avec des tout-petits ?
Alors, avec les enfants, en fait, quand on commence à s'intéresser aux questions qu'ils se posent, on se rend compte que les enfants très jeunes se posent toutes les questions que les humains se posent depuis toujours. Très petit, un enfant peut être confronté à la violence, peut être confronté à la mort, et donc et se poser des questions sur
le hamster qui meurt, par exemple.
Oui, ça encore le hamster, oui, mais ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, mais ça peut être aussi des choses. Sur qu'est-ce que je fais sur Terre, pourquoi on est là, qu'est-ce que ça veut dire grandir, est-ce que c'est mieux d'être un enfant ou un adulte, qu'est-ce que c'est le bonheur, qu'est-ce que c'est les émotions, pourquoi on est triste, pourquoi on a peur, et bien d'autres choses. Donc les enfants sont très curieux, se posent beaucoup de questions, mais souvent ils n'ont pas de lieu pour pouvoir y réfléchir. Parce que ça, c'est pas dans la culture de la famille, bien souvent. Et puis, on n'a pas d'endroit. Avec les petits copains en récréation, c'est rare qu'on parle de choses, de sujets comme ça. Et donc, c'est pour ça aussi que ces ateliers permettent aux enfants de s'exprimer sur des questions qui, bien souvent, on s'en rend compte, bien souvent, ils ont des idées là-dessus, sur ces questions-là. Ils ont des choses à dire. Ils y ont pensé dans leur coin. Et donc, pouvoir échanger avec les petits camarades, eh bien, ça les intéresse.
Ces échanges avec les petits camarades, ce sont des ateliers qui réunissent combien de personnes ?
Alors, ça dépend.
Paul, Éric, Anon.
Disons que pour qu'un atelier fonctionne bien, il faut un minimum de participants. À 3 ou 4 enfants, c'est difficile d'avoir un débat avec des avis différents, avec un échange qui soit productif. Donc souvent, on dit que 10-15 enfants, c'est un bon chiffre. Mais on peut également, quelquefois, et c'est assez souvent le cas aussi, être amené à prendre une classe entière. Donc avoir 20-25
enfants. Ça va être plus compliqué, parce qu'il y en a qui parlent plus facilement que d'autres. Il y a des gamins qui sont introvertis et d'autres qui se lâchent très facilement.
Tout à fait, oui, c'est vrai. Mais là, ça va être aussi le rôle de l'animateur d'être attentif à essayer de donner la parole à tous les enfants. Ceci dit, Il y a des enfants qui ne parlent pas beaucoup, mais qui écoutent beaucoup. Et je me souviens d'une personne qui nous formait pendant le parcours, qui nous avait dit qu'un de ses élèves ne parlait pratiquement pas. Et pourtant, à la fin de l'année, il lui avait demandé « Est-ce que je peux revenir l'année prochaine ?» Il était passionné par ce qui se passait, mais il était un petit peu gêné pour parler. Donc, on ne peut pas juger l'enfant qui ne parle pas. Et puis, on se rend compte aussi, et c'est très intéressant, que quelquefois des enfants qui ne sont pas particulièrement à l'aise en classe pour les matières traditionnelles, eh bien vont être beaucoup plus à l'aise pour parler dans un atelier philo. Alors que d'autres enfants, qui sont plutôt brillants quand il s'agit de donner des réponses précises à des questions qu'on leur pose, eh bien vont être quelquefois un peu déstabilisés par le fait que dans un atelier philo, il n'y a pas obligatoirement une bonne réponse. Il n'y a pas obligatoirement la réponse que l'animateur va attendre. D'ailleurs, en général, l'animateur n'attend pas une réponse. Il laisse les enfants s'exprimer et il anime le débat.
Paul-Éric Hanon, parlez-moi également de ces ateliers avec des adolescents. C'est encore une autre population. Nous qui avons été parents et qui sommes peut-être grands-parents, nous savons ce qu'est l'adolescence. C'est une période difficile où les ados ne savent plus s'ils sont enfants ou adultes. Ils sont entre les deux. Là aussi, il se pose des questions. Comment on aborde les grands thèmes de l'homme ?
Le principal dans un atelier philo, c'est d'être, je me répète un peu, à l'écoute des jeunes, à l'écoute des adolescents, à l'écoute de ce qu'ils ont à dire. Et quelquefois, surtout, ce qui est important, c'est de ne pas arriver avec des idées préconçues sur ce qu'on a envie de faire dans l'atelier. Je pense que la bonne posture de l'animateur, c'est pas préparer son atelier en disant « bon, on va parler de tel sujet et je vais essayer d'amener les jeunes vers tel endroit. Je vais essayer de leur faire dire telle ou telle chose ». D'ailleurs, quand on part comme ça, en général, on est très surpris parce que les jeunes, souvent, lancent la discussion et partent sur des sujets auxquels on n'avait pas pensé. Alors, les adolescents, ce sont comme les autres, hein, ce sont les jeunes qui se posent des questions, peut-être de façon différente, bien sûr, que les plus jeunes. Mais on retrouve quand même le même style d'interrogation qui se poursuit au fil des âges. Après tout, c'est vrai que quand on est plus âgé, on commence à s'interroger sur qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma place sur Terre, c'est quoi, comment je vais être heureux dans la vie, l'amitié, l'amour, ce sont des thèmes qui vont intéresser peut-être plus les plus grands. Quoique, déjà en primaire, on a des enfants qui ont des choses à dire très intéressantes sur la question de l'amitié, par exemple. Donc les thèmes évoluent peut-être un peu avec les adolescents, mais aussi les réponses, bien sûr, se complexifient, quoi.
En terminale, il y a effectivement des textes pour lancer les débats et la réflexion. Socrate, Aristote, Hegel, Schopenhauer. Comment on fait avec des adolescents qui n'ont peut-être jamais entendu citer ces grands noms qui sont des références de la philosophie? Et encore moins pour des enfants de maternelle ou de primaire.
Alors, en général, on n'est pas trop dans l'utilisation des grands textes. C'est vrai que, de temps en temps, au cours d'un débat, on peut être amené à dire aux enfants, aux adolescents, « Ben, voyez, la question sur laquelle on est en train de parler, le débat qu'on est en train d'avoir, ben, ce débat-là, il a fait l'objet de discussions et notamment tel...
il y a 3000 ans, voilà, on se posait déjà les mêmes questions.
Voilà, se posait déjà les mêmes questions il y a bien longtemps. Donc ça permet quelquefois de faire le lien aussi avec nos ancêtres, avec ceux qui étaient là avant nous, et puis de montrer que les grandes questions de la vie, eh bien, elles sont éternelles et elles se posent toujours. Et que ce soit au temps des Grecs ou maintenant, eh bien, on retrouve des questions identiques.
On rappelle le numéro de l'association, un numéro de téléphone où on peut vous contacter.
Alors le 06 74 91 04 09.
On répète le numéro.
06 74 91 04 09.
Prenez de l'altitude avec Didier Blonz et son émission Paroles d'assaut.
Les enfants du dimanche, une étoile dans les yeux, rêve d'une avalanche qui tomberait des cieux. Superman à la fête qui jouerait avec eux, à tire mitraillette sur un monde ennuyeux. Les enfants du dimanche, sans trop savoir comment, rêvent d'un papa qui danse dans les bras de maman. Superman à la fête qui arrangerait tout d'un seul coup de baguette. Superman, lui, peut tout. Les enfants du dimanche, une étoile dans les yeux, rêve d'indépendance et de miraculeux. Superman, si t'es chouette, s'il te plaît, prête-moi ta panoplie complète pour voler sur les toits.
Paul et Ricardo, on les forme comment, ces animateurs?
Alors, Sève a mis en place ce qu'on appelle chez nous un parcours qui permet aux personnes qui sont intéressées par l'animation d'atelier de suivre tout un cursus de formation pour acquérir les bases qui leur permettront d'animer dans de bonnes conditions. Alors c'est ainsi que ce parcours comprend 4 week-ends au cours desquels vont être abordées des questions sur comment mener un atelier philo avec les enfants, où on va apprendre à mieux connaître l'enfant et l'adolescent afin d'établir avec lui ce qu'on appelle une relation bienveillante, ce qui est une notion qui est importante chez Sève. On va aborder des notions de philosophie quand même pour avoir une base. Et puis aussi, on va travailler sur la pratique de l'attention avec les enfants. Parce que c'est aussi une particularité chez Sève, c'est qu'on tient à ce que tous les ateliers commencent par un temps de pratique de l'attention. Ce qu'on pourrait appeler une espèce de méditation laïque, mais que nous, on appelle pratique de l'attention. Et puis ce parcours, il va être complété par un travail personnel que le stagiaire va faire chez lui, visionnage de vidéos en ligne, des lectures qu'on va lui demander de faire. Et puis on va lui demander aussi, pendant ce parcours, d'animer quelques ateliers, comme en tant que stagiaire, en binôme. C'est-à-dire, un va observer, et puis l'autre va animer. Et puis, la fois d'après, ça sera le contraire. Et d'animer au minimum 3 ou 4 ateliers. Et puis, il y a aussi la tenue d'un journal de bord. Et tout ça se déroule sur 8 à 10 mois. Et donc c'est quelque chose quand même qui est assez exigeant, mais on y tient parce que...
Et un enrichissement personnel aussi.
C'est évident, c'est un enrichissement personnel aussi. Et beaucoup d'animateurs en profitent pour poursuivre leur formation, si on peut dire, personnelle, tant auprès de la connaissance de l'enfance que de la philosophie. Et ce parcours est vraiment important parce qu'on tient à ce que les ateliers soient de qualité. Un atelier philo, ce n'est pas une discussion du café du commerce. On n'est pas en train de parler ou commenter un match de foot, on n'est pas en train de commenter le dernier épisode d'un feuilleton à la télé. On va parler de choses importantes qui concernent notre vie. Et donc, c'est important que cela se fasse dans un cadre et d'une façon structurée. Et c'est pour ça que c'est important que les animateurs puissent se préparer à cela.
Est-ce qu'il y a des animateurs qui préfèrent se retrouver avec plutôt des enfants ou des adultes? Est-ce qu'il y a des préférences
Tout à fait, oui, il y a des animateurs qui vont nous dire, moi, je
me sens plus à l'aise.
Voilà, je me sens plus à l'aise avec les petits. D'autres qui vont être plus à l'aise, au contraire, avec les ados, parce que les petits savent pas trop comment gérer le groupe, ou ça leur fait peur quelquefois, s'ils n'ont pas eu une expérience personnelle dans ce domaine-là, par exemple. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui se lancent dans l'animation d'ateliers qui n'ont pas de parcours professionnel auprès des enfants. Donc c'est important pour eux de pouvoir aussi se former et de façon à être de plus en plus à l'aise, quoi.
Comment est venu ce projet de cette jeune association? Finalement, vous m'avez parlé de Frédéric Ledouard. Oui. Il était entouré de qui? Comment c'est venu cette idée?
Alors en fait, Frédéric Lenoir a eu l'occasion d'entendre parler d'ateliers philo, parce que les ateliers philo, ça existe depuis longtemps. Hein. En France, une bonne vingtaine d'années, mais c'était de façon assez discrète. Des enseignants qui étaient intéressés, qui faisaient ça dans leur classe. Un philosophe comme Michel Tozzi aussi, qui a développé les ateliers philo. Mais tout ça était assez limité. Et Frédéric Lenoir, en 2005-2006, a eu l'occasion donc, de s'intéresser à cette question. Il s'est dit « ça me passionne ». Et il s'est mis à faire des ateliers lui-même un peu partout, en France et même dans des pays francophones. Il en a sorti un livre et une idée. C'est un magnifique projet. Frédéric Lenoir, de façon qui peut peut-être paraître un peu utopique à certains, mais il faut être utopique et il faut avoir des idées pour que les choses avancent, se dit, si on arrivait à faire des ateliers philo à pratiquement tous les enfants, eh bien, en une génération, on pourrait changer le monde. Et donc, il a voulu structurer cette idée qu'il avait en créant avec quelques personnes autour de lui cette association, donc en 2006.
On rappelle le numéro de téléphone où on peut vous contacter.
Alors c'est le 06 74 91 04 09. Mais on peut aller aussi directement sur le site de l'asso, asso.save.org.
De toute façon, quand on tape asso point save, les moteurs de recherche oui, donnent un certain nombre. Une dernière question avant de nous séparer. Il y a une matière exigeante, la philosophie. Or, il y a énormément de débats à la télévision, mais c'est brouillon. Personne n'écoute son interlocuteur. Chacun veut prouver son idée. C'est pas ça la philosophie.
Exactement. Je crois que je suis bien content que vous parliez de ça parce que souvent on cite cet exemple-là comme un mauvais exemple de faux débat. Et effectivement, on a souvent l'habitude d'entendre parler de débats à la télévision. Et pour moi, ce ne sont pas des débats. Et nous, justement, ce qu'on veut, l'exigence qu'on a avec les enfants quand on mène ces ateliers philo, c'est de les amener à débattre réellement. Débattre, ça veut dire quoi, en quelques mots? Ça veut dire d'abord, quand je dis quelque chose, j'argumente. Je ne me contente pas de répéter ce que j'ai entendu ailleurs. Donc je suis capable d'argumenter, à mon niveau bien sûr, mais je suis capable de dire pourquoi je pense ça. Je suis capable aussi d'écouter l'autre. Et écouter l'autre, c'est avec respect. Je ne me moque pas de ce que l'autre dit. Et puis, en fonction de ce que l'autre va dire, il y a plusieurs possibilités. Je vais être d'accord avec lui, ou bien je vais me dire « Ah, j'y avais pas pensé, mais cela enrichit ma propre pensée, ma propre vision des choses, donc c'est intéressant. » Ou alors je vais dire « Ben non, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je respecte ta position. » Et le vrai débat, ça va être aussi cette capacité que les enfants vont acquérir petit à petit de se rendre compte que bien, dans un débat, on n'est pas tous du même avis obligatoirement. Il y a des choses que l'on partage, il y a des choses qu'on ne partage pas. Mais par contre, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on essaye d'avancer sur une question. On essaye de progresser et dans sa réflexion. Et c'est ça qui est important.
Paul-Éric Hanon, je vous remercie. C'était le 84e numéro de Paroles d'Assaut, une émission de Didier Blonze, prise de son Gisèle Billan. Aujourd'hui, nous recevions l'association SAVE, Savoir Être et Vivre Ensemble. Paul-Éric Hanon, au revoir.